premier colloque du syndicat français des arts thérapeutes. Corps présent, corps absent en art thérapie. Samedi 25 juin 2022.
Question-réponse avec Isabelle Ferré, art thérapeute, Sébastien Gay, art thérapeute, et Viviane Serron, dramathérapeute.
On a une toute première question de Nathalie Baconnet-Gallet, qui est pendant la présentation de Sébastien, sur le discours défensif dans le langage qui est aussi très présent, et parfois le corps vient révéler ce que le discours tente de cacher.
Sébastien Gay.
Oui, et qui peut avoir une contradiction en fait entre ce qu'on dit par les paroles et ce que notre corps dit.
Pour moi, ça me permet de faire aussi un lien avec ce qui a été discuté un petit peu hier sur la voix intérieure. Donc, sur les photos que vous présentiez, Sébastien, Nathalie dit « Les photos activent la voix intérieure. Elle est très présente à ce moment-là, un langage à soi-même. » Il y a ces images qui nous renvoient un petit discours, quelque chose qu'on se recrée à l'intérieur.
Oui, alors, est-ce que c'est vraiment un discours? Est-ce que c'est vraiment des mots? C'est ça qui est intéressant d'explorer.
Alors, je partage peut-être pour moi un truc un petit peu personnel. En regardant une des photos que vous avez présentées, celle où il y a le monsieur au milieu qui pousse quelque chose et ses pas sont effacés en même temps par l'autre chose. Donc, bien sûr, c'est moi qui me fais cette représentation de « Oh, il construit ce chemin et en même temps, il efface ses pas ». À chaque fois, c'était un peu une sensation aussi, pas que du côté du discours, mais d'une sensation aussi corporelle. Oh. Non, donc, c'est intéressant, ouais.
C'est vraiment mêlé et je trouve que c'est vraiment ce qui est fascinant chez Zuckerberg. Par parenthèse, ce n'est pas des photomontages, c'est des mises en scène. Il construit des maquettes, il prend des photos de lui, il fait des petits personnages avec des photos de lui, puis il se met en scène comme ça. C'est un artiste tout à fait fascinant, je trouve.
Viviane, la photo où on a les deux gens comme ça, elle m'a fait penser à ce que tu disais dans la sculpture des deux gens comme ça.
Tout à fait. Et le fait de penser le corps et puis finalement, là, dans ce que je disais sur cette patiente qui ne voit plus les corps mais voit l'espace entre les corps, le fait de prendre cette distance-là, ça change vraiment les perspectives de manière assez intéressante. Et je voulais revenir sur la première question qui a été posée, enfin en tout cas la première remarque sur le langage défensif. Est-ce que le corps peut en transmettre? Moi, j'ai été très frappée par donc cet accompagnement avec Patrick sur le fait qu'il sait qu'il manie très bien le langage, qu'il a quelque chose de très fluide, de très original, drôle. Donc, il écrit, je vois dans son regard, il est très fier de lui à la fin de l'écriture. Et puis, par contre, quand il s'agit de lire, et que là, tout à coup, bah, voilà, la gorge se noue, les larmes sortent, tout ce qui était de l'humour défensif, parce qu'il y a aussi cette part-là dans l'humour, ne peut se libérer complètement parce que finalement, le corps a repris le dessus et les émotions, elles sont là. Je trouve vraiment intéressant, je pense que ça aussi Isabelle pourrait en parler de cette différence entre les émotions présentes à l'écriture et puis à la lecture et la différence énorme qu'il y a entre le fait d'avoir d'une part, bon, le corps est impliqué de deux manières, hein, la première avec la main, mais la deuxième dans la lecture, ça amène quelque chose de totalement différent.
Isabelle Ferré.
Oui, tout à fait. Ça me fait penser à la relation entre corps et langage. Déjà, c'est vrai que souvent, le corps exprime autre chose que ce qui est dit, et puis vice-versa. Et en écriture, c'est pour ça que c'est très important, je pense, la lecture à voix haute, parce que c'est un passage de l'écrit par le corps et qui s'exprime dans la voix. Là, on a souvent une expression qu'il importe de contenir, d'ailleurs, souvent. Par contre, ce qui me fait penser par rapport à notre métier, c'est sur la relation au corps et à son expression, de prendre en compte la question transculturelle, les cultures, l'expression corporelle, la relation du corps à l'autre, au langage et à l'environnement est tout à fait différent d'une culture à une autre, et dire d'autres choses. Voilà, c'est assez important, je pense, aussi de s'enlever parfois ces filtres, de ne pas interpréter et de saisir qu'est-ce que signifie telle gestuelle, telle relation au corps dans la relation verbale quand on travaille avec des personnes d'origine africaine ou asiatique. Il faut déjà voilà, bien saisir qu'on n'est pas forcément au même endroit que nous, par exemple, que langage et corps ne sont pas forcément en corrélation ou veulent dire autre chose, quoi, signifie aussi autre chose. Mais sur la question défensive, on a aussi le langage, effectivement, plus dans quel sens c'était dit, un langage très défensif avec le corps qui exprime autre chose, comme tu dis, Viviane, par rapport à l'écriture, ou l'inverse. D'ailleurs, ce sont des exercices théâtraux qui peuvent être très intéressants.
Du coup, je rajouterais bien quelque chose, c'est qu'il y a une richesse dans la tonalité de la voix quand on passe de l'écriture à la lecture qui prend corps, finalement. Il y a vraiment de l'émotion qui passe et qui n'est pas du tout maîtrisée la plupart du temps. C'est une autre manière de se révéler, malgré soi, parfois.
Généralement, ça ne vient pas tout de suite. Il peut y avoir quelque chose de très contraint dans la lecture à voix haute. Et ça, ça fait partie du travail en écriture thérapeutique, justement. Et sûrement très aidé par la dramathérapie, c'est-à-dire arriver à exprimer avec l'émotion, enfin d'exprimer autre chose. Il y a tout un travail, généralement, de passer un texte écrit à la table d'écriture à une lecture à voix haute qui suscite souvent beaucoup d'émotions et parfois une fixation et un blocage du corps et de la voix très, très fort. Et à l'inverse, j'ai eu aussi un travail autour de la musique et du chant et du rap avec des jeunes dans les quartiers prioritaires. Et ceux qui avaient le plus d'expression vocale dans la cité et meneurs se trouvaient au moment de passer au micro dans un cadre bien précis, professionnel, d'enregistrement de ce qui avait été construit. Un blocage c'était assez émouvant même et assez impressionnant. Là, ça ne sortait plus. Il fallait devenir sujet, arriver à devenir sujet avec le travail de la voix, justement.
Vous avez sûrement commencé à répondre à la remarque de Dominique Benitucci sur le fait que le langage, c'est pas que le verbal, il y a aussi le langage corporel. Et Aurélie David, toujours dans ce sens, qui dit que pour elle, ça lui évoque, avec des patients qui ont un corps très limité dans la motricité, le langage devient le mouvement du corps.
Vous voulez qu'on vous autorise un petit peu le micro pour que vous puissiez peut-être développer un petit peu ce que vous étiez en train de dire. Aurélie.
Moi, je travaille beaucoup avec des personnes en situation de handicap. Donc divers, ça peut être aussi beaucoup en EHPAD, et du coup c'est vrai que parfois en fait au niveau motricité, ça peut être très très limité, donc on va pouvoir faire des choses etc, mais pas tellement, et en fait ça va être du coup plus le langage qu'on va utiliser en fonction de ce qui est préservé chez la personne. Si par exemple il va y avoir plus du visuel, on va aller un peu stimuler ce que ça peut réveiller chez la personne au niveau des sens, des choses comme ça. Et du coup, ça va être on va prendre plus le langage et puis du coup là ça va être le visuel comme ou après l'auditif aussi. Mais c'est le langage qui va être le support et qui va permettre de retransmettre des choses. Après, je trouve aussi que par l'écriture, il y a beaucoup la mémoire sensorielle, émotionnelle qui va être stimulée à travers l'écriture. Principalement, dans notre vie, on enregistre des informations. C'est essentiellement quand même la mémoire émotionnelle qui nous permet d'enregistrer les informations. Et du coup, voilà, elles vont être utilisées par le langage aussi. Bon, après, c'est vrai qu'on peut dire que tout est langage et tout est corps un petit peu, hein, mais c'est aussi le fait que les deux sont très, très reliés, en fait, finalement. La manière dont on va construire notre langage, ça va être lié à ce qu'on a vécu. Même si on n'est plus capable de faire certaines choses, on peut avoir la mémoire de ce qu'on a fait, etc., des choses comme ça.
En tout cas, il y était la question de la place du corps, aussi quand il n'y a pas trop de possibilités dans les mouvements du corps, comment la parole vient soutenir, ou un équilibre, un aller-retour, en fait, un peu entre
nous. Oui, voilà, c'est ça.
Delphine. J'ai noté, notamment pendant que Sébastien citait Deligny, en parlant du langage comme une nécessité, je me disais, en fait, il ne faut pas du langage, il faut de la communication. Je trouve que par rapport aux trois interventions de ce matin, cette distinction entre même donc communication, relation, enfin ces notions-là, elles sont intéressantes à faire dialoguer, si je puis dire. En tout cas, que la communication permet de dépasser les langages. Et par exemple, pour les photos de Garcin, je crois, je me disais pour y répondre, en fait, il faudrait une danse, bon, parce que c'est mon médium premier peut-être, mais une danse ou un poème d'ailleurs, des choses qui passent pas par le langage et la pensée, comme on en a entendu parler aussi hier. Voilà, donc c'était vous faire part de cette réflexion sur la communication ne passe pas forcément par le langage, et puis il est beaucoup question du corps. Et justement, du corps, il y a ce... J'en profite pendant que j'ai la parole, c'est un peu un autre sujet, mais notamment dans l'accompagnement de personnes avec des troubles du spectre autistique, mais à plein d'autres endroits d'ailleurs. Je pense qu'il y a une sorte d'accordage somatique qui se fait, enfin quelque chose qui passe pas du tout par les mots, et que il est beaucoup question de ça. Alors forcément, moi, en ayant dansé et fait, enfin, ou en dansant encore, et en faisant beaucoup d'ateliers, beaucoup de temps d'impro, pour moi déjà, de constater ce qui peut se passer entre nous, entre les participants. Enfin, j'ai naturellement utilisé ça pour mes interventions, et enfin, j'ai pu constater de la même façon que ça se passe entre des gens non danseurs. Et j'avais noté, ouais, accordage somatique, prendre le risque de l'action. Nous, on est, enfin, quand j'interviens en tout cas dans la danse, je suis toujours en action avec les personnes avec lesquelles j'interviens. C'est un peu comme une impro où des choses nous échappent mais sont possibles aussi. Enfin, voilà, cette incertitude et en même temps cette confiance qu'il faut nourrir sur la grâce du présent ou la congruence dans laquelle on doit, l'état de congruence dans lequel on doit se trouver.
Moi, je trouve ça vraiment intéressant, effectivement, et aussi la distinction entre langage et parole, et langage et texte, parce que le médium en lui-même est un langage. Par contre, la question, peut-être, c'est la parole et le texte. Et là, en atelier d'écriture, si on arrive à déconstruire les textes pour en faire vraiment, leur donner aussi une dimension sensorielle, là, on est toujours dans l'atelier d'écriture, mais il y a quelque chose d'autre qui peut se déployer. Et je trouve que l'exemple de Garcin avec ses photos et il ne met pas de titre, ça c'est une vraie question d'ailleurs quand on expose ou quand on présente son travail. Du coup, il y a la possibilité, l'espace, quand il n'y a pas de mots, de se projeter directement et d'être soi-même dans le sensoriel d'ailleurs.
Alors après, Garcin, pardon, mais il peut mettre des titres à ses photos, mais ça va être des titres un peu surréalistes, on va dire. C'est-à-dire que le titre n'a a priori pas grand rapport avec ce qu'on y voit.
Rodrigo.
Je voulais juste partager une expérience qui n'est pas directement avec moi, mais que j'ai observée plusieurs fois. Je travaille dans une résidence senior et c'est un plaisir de voir le professeur de gymnastique qui vient avec des petits-enfants de première année d'école primaire. Et chaque petit enfant choisit un grand-père ou une grand-mère, entre guillemets. Et dans le fond, c'est un prolongement du corps de quelqu'un qui doit faire sa gymnastique assise parce qu'il a évidemment des limitations au niveau motricité. Cette relation entre ces enfants et ces personnes âgées crée dans le fond des relations intergénérationnelles qui sont très intéressantes. Et c'est fascinant à voir le bonheur que ces personnes du troisième âge retirent de cette relation avec ces enfants qui les représentent dans le fond et qui font ce qui, au fait, ils n'arrivent plus à faire. Presque un prolongement du self de ces personnes âgées qui sont en relation directe avec un enfant, soit une petite fille, un petit garçon, pendant ces cours de gymnastique qui pour eux sont dans le fond un moment de grand bonheur. Alors à la fin de chaque semestre, les enfants offrent un dessin à leur grand-père ou à leur grand-mère et c'est un moment de grande satisfaction. Je n'interagis pas, mais je l'observe avec grand plaisir et je crois que c'est très important, cette relation intergénérationnelle, parce que je remarque que les jeunes ont de plus en plus difficile à se relationner avec les personnes plus âgées. Il y a une coupure très grande, un clivage très grand, et je crois que ces petits moments sont un moment de relation qui est important, même pour le futur de ces petits-enfants. Ils regarderont peut-être les personnes âgées d'une autre façon, avec plus de, je dirais pas compassion, j'aime pas le mot compassion, mais avec plus de volonté d'interagir.
Il y avait une question de Marie Véro à propos du silence. Notre présence est aussi faite de silence au pluriel, qui font langage. Comment nous emparons-nous ? Et je me permets de faire une petite référence, mais un lien sur la place du silence, sur le fait d'être parfois embarrassé de trop parler en séance, comme le disait Sébastien. Est-ce que c'est défensif? Quelle place on laisse au silence? Il me semble que c'est Paul Václavic qui a été cité, qui dit aussi, enfin c'est l'école Palo Alto qui dit, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc même un silence, c'est un acte de communication. Si vous voulez réagir à Marie Véro qui se demande comment on s'empare du silence.
Je pourrais faire une référence à la prison, à cet endroit d'avant-parloir. Il est un endroit comme ça quand on travaille dans des milieux très traversants, par exemple en milieu ouvert, où il y a un brouhaha, un trop-plein de paroles et de gestes souvent, qui masquent en fait un très grand silence. Alors, c'était l'un des thèmes d'ailleurs de l'un des colloques précédents, c'était sur le silence, justement les différentes formes, ceux qui cachent une angoisse, de l'inquiétude et le silence plein. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail autour du silence, notamment dans l'atelier d'écriture ou dans ces installations, peut-être de ces petits espaces dans le grand espace, comme j'avais dit dans mon intervention, où je pense que la place du silence et du non-faire aussi est vraiment capitale. Enfin, c'est ce qui définit un petit peu la pratique. Après, c'est vraiment quelque chose qui se construit sans que ce soit non plus anxiogène pour la personne ou pour le groupe. En écriture, le silence, c'est aussi le blanc dans la poésie. L'écriture poétique, c'est le blanc de la page. En musique, le silence a tout un sens aussi. Donc, peut-être qu'on peut se rapprocher de ça pour donner grande part au silence plein, qui donne l'espace et le souffle. C'est un peu comme ce que dit François Schenk, c'est le souffle, il est à cet endroit-là, qui va permettre la création et l'installation de la relation, peut-être. C'est ce qui me vient avec cette question très importante.
Pour moi, il y a trois types de silence. Il y a le silence de la mort, le silence absolu, qui est éminemment anxiogène. Il y a le silence impossible, c'est celui que j'évoque en fait dans mon intervention, où effectivement il vient combler quelque chose qui moi me met mal à l'aise, alors qu'il pourrait avoir sa place. Et puis il y a le silence, comme vous l'évoquez Isabelle, c'est-à-dire le silence qui est interruption de quelque chose qui pourrait se continuer à l'infini, mais qui vient interrompre quelque chose et qui là vient ouvrir à quelque chose d'autre. Et celui-là, c'est le vrai silence. C'est le silence qui est extrêmement important pour nous, art-thérapeutes. Il faut être à l'écoute de ces silences-là parce qu'il se passe quelque chose dans ces silences. Et ceux-là sont très très précieux.
Important au théâtre, c'est quelque chose en dramathérapie sur lequel on va beaucoup pouvoir amener les participants, puisque le silence au théâtre, c'est ce qu'il y a de, enfin souvent dit ce qu'il y a de plus beau, puisque quand l'acteur en scène silencieux arrive à captiver son public, c'est là qu'on a vraiment les émotions les plus fortes. Donc c'est un vrai exercice en fait pour les patients aussi d'accepter ce silence en scène, d'accepter juste du coup d'être là dans ce silence, et c'est des moments pour eux très importants. Souvent après une expérience comme ça, ils sortent assez bouleversés d'avoir pu vivre et habiter le silence.
Angela Evers.
C'est le silence qui laisse place à autre chose qu'on ne ferait pas en dehors du cadre art-thérapeutique. C'est dans un discours qui s'arrête, un silence qui s'installe, de pouvoir se regarder dans les yeux très très longtemps, parfois des larmes qui viennent, des émotions qui viennent, qui seraient dans un autre contexte gênant pour les gens. Et c'est l'espace thérapeutique et l'alliance qui permet ça aussi, de, comme vous dites, être là différemment et se sentir autorisé à laisser être ce silence et être là différemment.
Paola Martinez Takegami.
Je trouve très intéressant ces discussions et les différents commentaires qui viennent à nous avec les questions-réponses. C'est que là, sur cette matinée, il est question justement de mots, d'écriture, de communication, de langage. Delphine a fait bien la précision entre communication et langage. Donc, les dire aussi, ou le dire par les différentes médiations qui sont les vôtres. C'est vrai qu'il y a une invitation très intéressante, peut-être à voir quelle est notre relation au langage, en tant que langage parole, langage verbal, dans notre propre médiation, et comme vous le disiez si bien Sébastien, comment nous sommes à l'aise ou pas avec cette place de la parole, quelle place est là, quelle place on a avec le silence. Et donc moi, en tant que danse mouvement thérapeute, c'est vrai qu'on travaille beaucoup dans le silence, mais le silence à niveau des impulsions ou des stimulations extérieures. Ça ne veut pas dire qu'on est en silence à l'intérieur de soi, car justement ce silence sonore, donc parfois on n'utilise pas du tout la musique, on ne donne pas de consignes, il n'y a pas la parole qui vient soutenir quelque chose dans les improvisations, laisse advenir des dires du corps. Mais c'est des dires du corps qui ne correspondent pas forcément au code du langage verbal dans la communication sociale, mais qui est une communication de soi avec soi-même qu'on laisse justement advenir et émerger dans ce travail. Donc, je me permettais de faire toutes ces relations avec ces mots que vous avez laissés là, comment il y a ces différences, ou qu'est-ce qu'on entend par communication, par langage, par le langage verbal, par le langage non-verbal, quelle place on laisse au dire du corps, au dire des mots, et comment on les entend. Parce que, comme Isabelle, tu le disais si bien, est-ce qu'on est en train de les interpréter du fait qu'il y a une part vraiment subjective, et qu'est-ce qu'on entend? Donc, est-ce qu'en tant qu'art-thérapeute, justement, nous nous freinons aussi un peu à ça pour que ça soit nos patients qui nous racontent et nous disent, fur et à mesure, quel sens ces mots ont aussi pour eux? Et peut-être, je m'arrête sur une autre dimension, c'est que la voix, je parle de la voix, pas forcément de la parole, c'est le corps sonore, en fait. Donc, ça englobe justement cette partie aussi.
Oui, je voulais juste faire un rapprochement par rapport à Delphine. Il me semble, Delphine, que tu as fait la fratapem. Et la fratapem, effectivement, il y a plusieurs concepts qui sont souvent cités, et communication, relation. Et les art-thérapies sont souvent mentionnées, alors peut-être moins avec, maintenant avec Fabrice Chardon qui est psychologue, mais à l'époque, c'était souvent l'art-thérapie, c'est non-verbal, c'est du non-verbal. Oui, les arts, c'est une expression, une forme d'expression non verbale, mais on voit bien l'importance du langage en fait dans les séances en art-thérapie, et notamment l'importance de la formation chez les art-thérapeutes à associer, à savoir analyser aussi ce qui est de l'ordre du non verbal et comment l'art-thérapeute va parler au patient, comment il va analyser ce que le patient, observer ce que le patient fait, et aussi comment lui-même va se positionner et corporellement et au niveau du langage aussi.
Oui, je me permets d'en, de rebondir sur cette idée du non-verbal dans les arts-thérapies. En musicothérapie, il y a une guéguerre d'école, le cours Bellenzen qui pense qu'on peut faire de la musicothérapie sans parler, vraiment que non-verbal, et dit le cours plus du côté de la psychanalyse qui dit bah si, on a besoin de la parole et des mots. Ça répond un peu à cette idée de est-ce que les arts-thérapies sont que de la communication non-verbale?
C'est quelque chose qui m'a, quand j'ai commencé la formation d'art-thérapie, j'ai vu non-verbal, et comme moi, c'est l'écriture au démarrage, là, je me suis trompée d'endroit. Ça a été de grands débats, enfin plus ou moins, parce qu'en écriture, de quoi s'agit-il? Je crois que tout ce qui différencie des autres champs thérapeutiques qui sont dans le verbal, comme je disais, la psychanalyse, la psychothérapie, les thérapies verbales, c'est que je pense que c'est justement la question du corps. Il peut y avoir du verbe, de l'expression verbale écrite, c'est ce qu'on a vu déjà ce matin, mais c'est le rapport au corps, et puis au fait qu'on est trois justement en production, le patient et l'art thérapeute, ça peut être verbal, enfin une sorte d'antinomie avec le verbal qui m'a toujours un petit peu étonnée sur ce mot verbal. Tout dépend de ce que dit et comment s'exprime le verbe.
En fait, chaque image fait venir des mots et chaque mot fait venir une image, enfin on est fait comme ça quoi, c'est indissociable. Et je pense que par exemple, même quand on est assis devant une table à écrire ou à faire de la terre, le corps est actif, même si on ne bouge pas, symboliquement, dans l'imaginaire, dans ce qu'on travaille, le corps est très souvent évoqué. Et il est là, presque dans tout qui se passe. Hein, même si on ne bouge pas, même si on ne fait que parler, le corps est là.
Tout à fait, ça peut être l'un des thèmes en atelier d'écriture. Quel est mon corps écrivant? Comment je me trouve dans l'infime aussi, ce qui ne se voit pas au niveau musculaire? Enfin voilà, la question n'est pas forcément d'écrire avec de grands mouvements. Et c'est ce que dit Régine Détambelle, je mettrai les références. Elle a beaucoup travaillé sur le corps en train d'écrire, sur les objets justement qui suscitent quelque chose. Les écrivains marcheurs aussi, le corps comme méditer, ça peut être en marchant. Ça, c'est vraiment la spécificité justement de notre métier.
Dans ce que vous évoquiez sur les différentes écoles en musicothérapie, alors je ne suis pas sûr d'appartenir à une quelconque école, mais c'est aussi quand même des approches différentes dans la mesure où il y a, quand on parle de parole ou de verbal en musicothérapie, c'est un peu dans cette perspective de dire bah, j'ai joué quelque chose et ensuite j'analyse ce que j'ai joué, comment j'ai joué, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que ça m'a fait vivre, etc. etc. Donc, et ça, alors à titre personnel, pour moi, si je devais faire partie d'une école, ce serait probablement pas de cette école-là. Parce que je suis pas persuadé de ça. Autant parler, écrire, improviser, jouer, etc. C'est-à-dire, comme je l'évoquais, utiliser le langage comme un médium malléable, comme un autre. Ça, on est du domaine de l'art-thérapie. Mais après, analyser pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qu'on a fait, etc., etc. Pour moi, ça, on est en dehors de cette problématique d'art-thérapie, parce qu'on n'est plus du tout dans le corporel, justement, dans le verbal.
Chacune de ces interventions, ce que vous nous avez partagé, c'est dans un accompagnement de patients ou de personnes qui viennent aussi ou qui vous font questionner, en fait. Dans les arts-thérapies, notre outil de travail, c'est les arts, notre médiation, notre spécialité. Et là, ce qu'on est en train d'inviter peut-être à laisser, à continuer à développer, c'est cette relation justement au langage, au verbal ou pas, de par nous-mêmes, quelle relation nous avons nous aussi, mais quelle fonction ça peut avoir au sein de nos ateliers. Pourquoi on l'utilise? Et pourquoi on ne l'utilise pas? Que ça soit aussi une utilisation consciente, éthique, pour qu'on puisse répondre au mieux aux personnes qu'on accompagne. Est-ce qu'on ne l'utilise pas parce qu'on ne veut pas, mais à quoi ça répond? Qu'est-ce que ça ouvre ou qu'est-ce que ça ferme? Et si le contraire aussi, pareil. Donc cette possibilité de toujours être en questionnement sur ce point. Peut-être, comme notre thème, c'est corps présent, corps absent, de revenir aussi sur cette dimension du corporel, comme vous l'avez très bien dit, là-dedans. Donc la possibilité aussi de voir et entendre l'infiniment petit, qui ne correspond pas à des choses qui sont dans nos gestes un peu du quotidien. Et Delphine, vous l'avez évoqué sur l'accordage somatique. Moi, j'évoquerai aussi l'accordage tonico-affectif, qui est encore un autre petit élément qui est quelque chose avec le thérapeute qui se joue beaucoup et qui devient de la communication.
Il y a Nathalie Fabien qui nous propose le concept clé de l'école d'art-thérapie de Tours qui serait le hors-verbal. Encore un nouveau mot, donc, qui désigne les ressentis.
À propos du hors-verbal, pour essayer de le représenter, je me dis c'est le frisson musical qu'on a en commun. Et là, tout le monde sent qu'il s'est passé quelque chose. On ne s'est pas parlé, on a tous ressenti des choses et on les a ressenties ensemble. Pour répondre, c'était pas vraiment une question, Hélène, mais il est plus question de langage. Je pense à la Fratapem à Tours maintenant. En fait, ça n'a même pas été une question, le fait qu'il n'y ait pas de langage. C'est juste on n'est pas psychologue et il faut juste se placer à un endroit juste pour soi et pour en tant qu'art-thérapeute, quoi.
je rajouterai quand même, et pour les patients, car de toute façon, la parole n'est pas interdite si elle a un sens justement dans l'accompagnement.